Trois mois après les événements que nous venons de raconter, à la fin d'un jour pluvieux et au commencement d'une nuit d'orage, cinq hommes sortis de la porte Nomentane s'avançaient à cheval sur la voie qui porte le même nom. Celui qui marchait le premier et que par conséquent on pouvait considérer comme le chef de la petite troupe était pieds nus, portait une tunique bleue et par-dessus cette tunique un grand manteau de couleur sombre. Quant à sa figure, soit pour la garantir de la pluie qui fouettait avec violence, soit pour la soustraire au regard des curieux, elle était entièrement couverte d'un voile. Car, quoique, comme nous l'avons dit, la nuit fût affreuse, quoique les éclairs sillonnassent l'ombre, quoique le tonnerre retentît sans interruption, la terre semblait tellement occupée de ses révolutions qu'elle avait oublié celle du ciel. En effet, de grands cris populaires s'élevaient de la cité impériale, pareils aux rumeurs de l'océan pendant une tempête, et tandis que sur la route on rencontrait de 100 pas en 100 pas, soit des individus isolés, soit des groupes dans le genre de celui que nous venons d'écrire, tandis qu'aux deux côtés des voies, Alaria et Nomentana, on voyait s'élever les nombreuses tentes des soldats prétoriens qui avaient abandonné leurs casernes situées dans l'enceinte de Rome et étaient venus chercher hors des murs de la ville un campement plus libre et plus difficile à surprendre. C'était, comme nous l'avons dit, une de ces nuits terribles où toutes les choses de la création prennent une voix pour se plaindre, tandis que les hommes se servent de la leur pour blasphémer. Au reste, l'on eût dit, à la terreur du chef de la cavalcade sur laquelle nous avons attiré l'attention de nos lecteurs, qu'il était le but vers lequel se dirigeait la double colère des hommes et des dieux. En effet, au moment où il sortit de Rome, un souffle étrange avait passé dans l'air, et au même instant que les arbres en frémissaient, la terre avait tressailli, et les chevaux s'étaient abattus en hennissant, tandis que les maisons éparses dans la campagne oscillaient visiblement sur leur base. Cette commotion n'avait duré que quelques secondes, mais elle avait couru de l'extrémité des Apennins à la base des Alpes, si bien que toute l'Italie en avait tremblé. Un instant après, en traversant le pont jeté sur le Tibre, un des cavaliers fit remarquer à ses compagnons que l'eau, au lieu de descendre à la mer, remontait en bouillonnant vers sa source, ce qui ne s'était vu encore que le jour où Julius César avait été assassiné. Enfin, en arrivant au sommet d'une colline d'où l'on découvre Rome tout entière, et sur la crête de laquelle un cyprès, aussi ancien que la ville, s'élevait vénérable et respecté, un coup de tonnerre s'était fait entendre, le ciel avait semblé s'ouvrir, et la foudre enveloppant les voyageurs d'une nuée sulfureuse avait été brisée l'arbre séculaire qu'avait jusqu'alors respecté le temps et les révolutions. À chacun de ces présages sinistres, l'homme voilé avait poussé un gémissement sourd et avait, malgré les représentations d'un de ses compagnons, mis son cheval à une allure un peu plus vive, de sorte que la petite troupe suivait alors au trot au milieu de la voie. À une demi-lieue de la ville à peu près, elle rencontra une troupe de paysans qui, malgré le temps affreux qu'ils faisaient, venaient joyeusement à Rome. Ils étaient parés de leurs habits de fête et avaient sur la tête des bonnets d'affranchis pour indiquer que de ce jour le peuple était libre. L'homme voilé voulut quitter le pavé et prendre à travers terre. Son compagnon saisit son cheval par la bride et le força de continuer sa route. Lorsqu'ils arrivèrent près des paysans, un d'eux leva son bâton pour leur faire signe d'arrêter. Les cavaliers obéirent. « Vous venez de Rome ? » dit le paysan. « Oui, » répondit le compagnon de l'homme voilé. « Que disait-on de Néonobarbus ?» L'homme voilé tressaillit. « Qui s'était sauvé ?» répondit un des cavaliers. « Et de quel côté ?»« Ben, du côté de Naples, il a été vu, dit-on, sur la voie appienne. »« Merci !» dirent les paysans, et ils continuèrent leur route vers Rome en criant « Vive Galba et mort à Néron ! Vive Galba et mort à Néron !» Ces cris en éveillèrent d'autres dans la plaine, et des deux côtés du camp, les voix des prétoriens se firent entendre, chargeant César d'affreuses imprécations. La petite cavalcade continua son chemin. Un quart d'heure de lieue plus loin, elle rencontra une troupe de soldats. « Qui êtes-vous ? » dit un des astatis en barrant le chemin avec sa lance. « Des partisans de Galba qui cherchent Néron, » répondit un des cavaliers. « Alors meilleure chance que nous, » dit le décurion, « car nous l'avons manqué. » « Comment cela ? » ?»« Oui, on nous avait dit qu'il devait passer sur cette route, et voyant un homme qui courait au galop, nous avons cru que c'était lui. »« Et ?» dit d'une voix tremblante l'homme voilé. « Mais nous l'avons tué, » répondit le décurion. « Ce n'est qu'en regardant le cadavre que nous nous sommes aperçus que nous nous étions trompés. Soyez plus heureux que nous et que Jupiter vous protège. » L'homme voilé voulut de nouveau remettre son cheval au galop, mais ses compagnons l'arrêtèrent. Il continua donc de suivre la route. Mais au bout de 500 pas à peu près, son cheval buta contre un cadavre et fit un écart si violent que le voile qui lui couvrait le visage s'écarta. En ce moment passait un soldat prétorien qui revenait en congé. « Salut, César !» dit le soldat. Il avait reconnu Néron à la lueur d'un éclair. En effet, c'était Néron lui-même qui venait de se heurter au cadavre de celui qu'on avait pris pour lui. Néron, pour qui à cette heure tout était un motif d'épouvante jusqu'à cette marque de respect que lui donnait un vétéran. Néron, qui tombait du faîte de la puissance par un de ces retours de fortune inouïs dont l'histoire de cette époque offre plusieurs exemples, Néron qui se voyait à son tour fugitif et proscrit, fuyant la mort qu'il n'avait le courage ni de se donner ni de recevoir. Jetons maintenant les yeux en arrière et voyons par quelle suite d'événements le maître du monde avait été réduit à cette extrémité. En même temps que l'empereur entrait au cirque, où il était salué par les cris de « Vive Néron l'Olympique, vive Néron Hercule, vive Néron Apollon, vive Auguste, vainqueur de tous ses rivaux, gloire à cette voix divine !» Heureux ceux à qui il a été donné d'entendre ces accents célestes. Un courrier venait des Gaules, franchissait au galop de son cheval, ruisselant de fleurs, la porte flaminienne, traversait le champ de Mars, passait sous l'arc de Claude, longeait le Capitole, entrait au cirque, et remettait à la garde qui veillait à la loge de l'empereur les lettres qu'il apportait de si loin et en si grande hâte. Ce sont ces lettres qui, comme nous l'avons dit, avait forcé César de quitter le cirque, et en effet, elles étaient d'une importance qui expliquait la disparition subite de César. Elles annonçaient la révolte des Gaules. Il y a des époques dans l'histoire du monde où l'on voit un empire qui semblait endormi d'un sommeil de mort tressaillir tout à coup, comme si, pour la première fois, le génie de la liberté descendait du ciel pour illuminer ses songes. Alors, quelle que soit son étendue, la commotion électrique qui l'a fait frissonner s'étend du nord au midi, de l'Orient à l'Occident, et court à des distances inouïes, réveiller des peuples qui n'ont aucune communication entre eux, mais qui, tous arrivés au même degré de servitude, éprouvent le même besoin d'affranchissement. Alors, comme si quelque éclair leur avait porté le mot d'ordre de la tempête, on entend les mêmes cris venir de 20 points opposés, tous demandant la même chose dans des langues différentes, c'est-à-dire que ce qui est ne soit plus. L'avenir sera-t-il meilleur que le présent ? Nul ne le sait, et peu importe. Mais le présent est si lourd qu'il faut d'abord s'en débarrasser, puis l'on transigera vers l'avenir. L'Empire romain, jusqu'à ses limites les plus reculées, en était arrivé à cette période. Dans la Germanie inférieure, Fonteius Capiton, dans les autres Vindex, en Espagne Galba, en Lusitanie Othon, en Afrique Claudius Macer et en Syrie Vespasien, formaient avec leurs légions un demi-cercle menaçant qui n'attendait qu'un signe pour se resserrer sur la capitale. Seul Virginius, dans la Germanie supérieure, était décidé, quelque chose qui arriva, à rester fidèle non pas à Néron, mais à la patrie. Il ne fallait donc qu'une étincelle pour allumer un incendie. Ce fut Julius Vindex qui la fit jaillir. Ce prêteur originaire d'Aquitaine, issu de race royale, homme de cœur et de tête, comprit que l'heure où la famille des Césars devait s'éteindre était arrivée. Sans ambition pour lui-même, il jette les yeux autour de lui afin de trouver l'homme élu d'avance par la sympathie générale. À sa droite et de l'autre côté des Pyrénées était Sulpicius Galba, que ses victoires en Afrique et en Germanie avaient fait à la fois puissant sur le peuple et sur l'armée. Sulpicius Galba haïssait l'empereur. Non, la crainte l'avait arraché de sa villa de Fondi pour l'envoyer en Espagne comme exilé plutôt que comme prêteur. Sulpicius Galba était désigné d'avance et depuis longtemps par les traditions populaires et par les oracles divins comme devant porter la couronne. C'était l'homme qui convenait en tout point pour mettre à la tête d'une révolte. Vindex lui envoya secrètement des lettres qui contenaient tout le plan de l'entreprise, qui lui promettaient, à défaut du concours des légions, l'appui de 100 000 Gaulois, et qui le suppliaient, s'il ne voulait pas concourir à la chute des Nérons, de ne point se refuser du moins à la dignité suprême, qu'il n'avait point cherché mais qui venait s'offrir à lui. Quant à Galba, son caractère ombrageux et irrésolu ne se démentit point en cette circonstance. Il reçut les lettres, les brûla pour en détruire jusqu'à la moindre trace, mais les conserva toutes entières dans sa mémoire. Vindex sentit que Galba voulait être poussé. Il n'avait pas accepté l'alliance, mais il n'avait pas trahi celui qui la lui offrait. Le silence était un consentement. Le moment était favorable. Deux fois par an, les Gaulois se réunissaient dans l'Assemblée générale. La séance se tenait à Clermont et Vindex entra dans la chambre de délibération. Au milieu de la civilisation, du luxe et de la corruption romaine, Vindex était resté le Gaulois des anciens jours. Il joignait à la résolution froide et arrêtée des gens du Nord la parole hardie et colorée des hommes du Midi. « Vous délibérez sur les affaires de la Gaule, dit-il. Vous cherchez autour de vous la cause de nos maux. La cause est à Rome, le coupable, c'est Onéobarbus. C'est lui qui, les uns après les autres, a anéanti tous nos droits, qui a réduit nos plus riches provinces à la misère, qui a vêtu nos plus nobles maisons de deuil. Et le voilà maintenant, parce qu'il est le dernier de sa race, parce que seul resté de la famille des Césars, il ne craint ni rival ni vengeur, le voilà qui lâche la bride à ses fureurs comme il le fait à ses coursiers et qui se laisse emporter à ses passions, écrasant la tête de Rome et les membres des provinces sous les roues de son char. Je l'ai vu, continua-t-il, oui, je l'ai vu moi-même, cet athlète et ce chanteur impérial et couronné, ivre à la fois et indigne de la gloire d'un gladiateur et d'un histrion. Pourquoi donc le décorer des titres de César, de prince et d'Auguste, de ces titres qu'avait mérité le divin Auguste par ses vertus, le divin Tibère par son génie, le divin Claude par ses bienfaits? Lui, cet effame Onéobarbus, c'est Œdipe, c'est Oreste, qu'il faut rappeler puisqu'il ne se fait gloire de porter les noms d'inceste et de parricide. Jadis, nos ancêtres, guidés par le seul besoin du changement et par l'appât du gain, ont emporté Rome d'assaut. Cette fois, c'est un motif plus noble et plus digne qui nous guidera sur la trace de nos ancêtres. Cette fois, dans le plateau de la balance, au lieu de l'épée de notre vieux Brenne, nous jetterons la liberté du monde, et cette fois, ce ne sera pas le malheur, mais la félicité que nous apporterons aux vaincus. Vindex était brave. On savait que les paroles qui sortaient de sa bouche n'étaient point de vaines paroles. Aussi de grands cris, de vifs applaudissements et de brillantes acclamations accueillirent-ils son discours. Chaque chef de Gaulois tira son épée, jura sur elle d'être de retour dans un mois, avec une suite proportionnée à sa fortune et à son rang, et se retira dans la ville. Cette fois, le masque était arraché du visage et le fourreau jeté loin de l'épée. Vindex écrivit une seconde fois à Galba. Dès son arrivée en Espagne, Galba s'était fait une étude de la popularité. Jamais il ne s'était prêté aux violences des procurateurs, et ne pouvant empêcher leurs exactions, il plaignait tout leurs victimes. Jamais il ne disait de mal de Néron, mais il laissait librement circuler des vers satiriques et des épigrammes outrageantes contre l'empereur. Tous ceux qui l'entouraient avaient deviné ses projets, mais jamais il ne les avait confiés à personne. Le jour où il reçut le message de Vindex, il donna un grand dîner à ses amis, et le soir, après leur avoir annoncé la révolte des Gaules, il leur communiqua la dépêche, sans l'accompagner d'aucun commentaire, les laissant libres par son silence d'approuver ou de désapprouver l'offre qui lui était faite. Ses amis restaient muets et irrésolus de cette lecture. Mais l'un d'eux, nommé Titus Venius, plus déterminé que les autres, se tourna de son côté et le regarda en face. « Galba, lui dit-il, pourquoi délibérer pour chercher si nous serons fidèles à Néron ? C'est déjà lui être infidèle. Il faut tout accepter, l'amitié de Vindex, comme si Néron était déjà notre ennemi, ou l'accuser sur le champ, ou lui faire la guerre. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce qu'il veut que les Romains vous aient pour empereur, plutôt que Néron pour tyran. » Nous nous rassemblerons, si vous le voulez bien, répondit Galba, comme il n'avait point entendu la question, le 5 du mois prochain à Carthage-la-Neuve, afin de donner la liberté à quelques esclaves. Les amis de Galba acceptèrent le rendez-vous, et à tout hasard, ils répandirent le bruit que cette convocation ait pour but de décider des destins de l'Empire. Aujourd'hui, tout ce que l'Espagne comptait d'illustres en étrangers et en indigènes était rassemblé au rendez-vous. Chacun y venait dans un même but, animé d'un même désir, poursuivant une même vengeance. Galba monta sur son tribunal, et aussitôt d'un élan unanime, toutes les voix le proclamèrent empereur. Chapitre 17. Voilà ce que contenaient les lettres que Néron avait reçues, et telles étaient les nouvelles qu'il avait apprises. En même temps, on lui dit que des proclamations de Vindex ont été distribuées et que quelques-unes déjà sont parvenues à Rome. Bientôt, une de ces proclamations tombe entre ses mains. Les titres d'incestueux, de parricide et de tyran lui était prodigué, et cependant, ce n'est point tout cela qui l'irrite et le blesse. Il y est appelé Onéobarbus et traité de mauvais chanteur. Ce sont des outrages dont il faut que le Sénat le venge, et il écrit au Sénat. Pour repousser le reproche d'inhabileté dans son art, venger le nom de ses aïeux, il fait promettre 1 million de sesterces à celui qui tuera Vindex, et retombe dans son insouciance et dans son apathie. Pendant ce temps, la révolte faisait des progrès en Espagne et dans les Gaules. Galba s'était créé une garde de l'ordre équestre et avait établi une espèce de sénat. Quant à Vindex, à celui qui lui avait appris que sa tête était à prix, il avait répondu qu'il la laisserait prendre à celui qui lui apporterait, celle de Néron. Mais parmi tous ces généraux, tous ces préfets, tous ces prêteurs, dévots à la nouvelle fortune, un seul était resté fidèle, non par amour de Néron, mais parce que, voyant dans Vindex un étranger, et que, connaissant Galba pour un esprit faible et irrésolu, il craignit que Rome, si malheureuse qu'elle fût, n'eût encore à souffrir du changement. Il marcha donc vers les Gaules avec ses légions, pour sauver à l'Empire la honte d'obéir à l'un de ses anciens vainqueurs. Les chefs gaulois avaient tenu leur serment, commandant aux trois peuples les plus illustres et les plus puissants de la Gaule, les Séquanais, les Éduins et les Arverniens, ils étaient réunis autour de Vindex. À leur tour, les Viennois étaient venus les rejoindre, joints, mais ceux-là n'étaient pas unis comme les autres par l'amour de la patrie ou le désir de la liberté. Ils venaient par haine des Lyonnais, qui étaient restés fidèles à Néron. Virginius, de son côté, avait autour de lui les légions de Germanie, les auxiliaires belges et la cavalerie batave. Les deux armées s'avancèrent au-devant l'une de l'autre. Et ce dernier, étant arrivé devant Besançon, qui tenait pour Galba, en forma le siège. Mais à peine les dispositions obsidionales étaient-elles prises, qu'une autre armée apparut à l'horizon, c'était celle de Vindex. Les Gaulois continuèrent de s'avancer vers les Romains qui les attendaient, et se trouvant bientôt à trois portées de trait de ceux-ci, ils s'arrêtèrent pour faire leurs dispositions de bataille. Mais en ce moment, un héros sortit des rangs de Vindex et marcha vers Virginius. Un quart d'heure après, la garde des deux chefs s'avança entre les deux armées, une tente fut dressée. Chacun se rangea du côté de son parti. Vindex et Virginius entrèrent dans cette tente. Nul n'assista à cette entrevue. Cependant, l'avis des historiens est que Vindex, ayant développé sa politique à son ennemi et lui ayant donné la preuve qu'il agissait non pas pour lui, mais pour Galba, Virginius, qui vit dans cette révolution le bonheur de la patrie, se réunit à celui qu'il était venu combattre. Les deux chefs allaient donc se séparer, mais pour se réunir bientôt et marcher de concert contre Rome, lorsque de grands cris se firent entendre à l'aile droite de l'armée. Une centurie était sortie de Besançon pour communiquer avec les Gaulois, et ces derniers, ayant fait un mouvement pour la joindre, les soldats de Virginius se crurent attaqués, et n'écoutant qu'un premier mouvement, marchèrent eux-mêmes au-devant d'eux. C'était là la cause des cris que les deux chefs avaient entendus. Ils se précipitèrent chacun de son côté, suppliant leurs soldats de s'arrêter. Mais leurs prières furent couvertes par les clameurs que poussaient les Gaulois en appuyant leurs boucliers à leurs lèvres. Leurs signes furent pris pour des gestes d'encouragement. Un de ces vertiges étranges qui prennent parfois une armée comme un homme s'était emparé de toute cette multitude. Et alors on vit un spectacle atroce. Les soldats, sans ordre de chef, sans place de bataille, poussés par un instinct de mort, soutenus par cette vieille haine des vaincus contre les vainqueurs et des peuples conquérants contre les peuples conquis, se ruèrent l'un sur l'autre, se prirent corps à corps, comme les lions et les tigres dans un cirque. En 2 heures de ce combat, les Gaulois avaient perdu 20 000 hommes et les légions germaines et bataves 16 000. C'était le temps physique qu'il avait fallu pour tuer. Enfin, les Gaulois reculèrent, mais la nuit étant venue, les deux armées restèrent en présence. Cependant, cette première défaite avait abattu le courage des rebelles. Ils profitèrent de la nuit pour se retirer. Sur l'emplacement où les légions germaines croyaient les retrouver le lendemain matin, il ne restait plus qu'une tente, et sous cette tente, le corps de Vindex, qui désespérait que le hasard eût fait perdre la liberté de si hautes espérances, s'était jeté sur son épée qu'il croyait inutile et s'était traversé le cœur. Les premiers qui entrèrent sous sa tente frappèrent le cadavre et dirent qu'ils l'avaient tué. Mais au moment de la distribution de la récompense que Virginius leur avait accordée pour cette action, l'un d'eux, ayant eu à se plaindre du partage, dénonça tout et l'on sut la vérité. Vers le même temps, des événements non moins favorables à l'empereur se passaient en Espagne. Un des escadrons qui s'était révolté, se repentant d'avoir rompu le serment de fidélité, avait voulu abandonner la cause de Galba et n'était qu'à grand-peine rentré sous ses ordres, de sorte que celui-ci, le jour même où Vindex s'était tué, avait manqué d'être assassiné dans une rue étroite, en se rendant au bain, par des esclaves que lui avait autrefois donné un affranchi de Néron. Il était donc encore tout ému du double danger lorsqu'il apprit la défaite des Gaulois et la mort de Vindex. Alors il crut tout perdu, et au lieu de s'en remettre à la fortune audacieuse, il écouta les conseils de son caractère timide et se retira à Cluny, ville fortifiée dont il s'occupa aussitôt d'augmenter encore la défense. Mais presque aussitôt, des présages auxquels il n'y avait point à se tromper vinrent rendre à Galba le courage perdu. Au premier coup de pioche qu'il donna pour tracer une nouvelle ligne autour de la ville, un soldat trouva un anneau d'un travail antique et précieux dont la pierre représentait une victoire et un trophée. Ce premier retour du destin lui donna un sommeil plus calme qu'il ne l'espérait, et pendant ce sommeil, il vit en songe une petite statue de la fortune haute d'une coudée et à laquelle il rendait un culte particulier dans sa villa de Fondi, lui ayant voué un sacrifice par mois et une veille annuelle. Elle sembla ouvrir sa porte et lui dit que, fatiguée d'attendre au seuil, elle suivrait enfin un autre s'il ne se pressait de la recevoir. Puis, comme il se leva ébranlé par ses deux augures, on lui annonça qu'un vaisseau chargé d'armes, sans passagers, matelots ni pilotes, venait d'aborder à Dertosa, ville située sur l'Ebre, et dès lors il considéra sa cause comme juste et gagnée, car il était visible qu'elle plaisait aux dieux. Quant à Néron, il avait d'abord regardé ces nouvelles comme de peu d'importance, et s'en était même réjoui, car il voyait, sous le prétexte du droit de guerre, un moyen de lever un nouvel impôt. Il s'était donc contenté, comme nous l'avons dit, d'envoyer au Sénat les proclamations de Vindex en demandant justice de l'homme qui le traitait de mauvais joueur de cithare. Puis il avait, pour le soir, convoqué chez lui les principaux citoyens. Ceux-ci s'étaient empressés de s'y rendre, pensant que cette réunion avait pour but de tenir conseil. Mais Néron se contenta de leur montrer un à un, et en discourant sur l'emploi et le mérite de chaque pièce, des instruments de musique hydraulique d'une nouvelle espèce, et tout ce qu'il dit de la révolte gauloise fut qu'il ferait porter tous ces instruments au théâtre si Vindex ne l'en empêchait. Le lendemain, de nouvelles lettres étant arrivées qui annonçaient que le nombre des Gaulois révoltés s'élevait à 100 000, Néron pensa qu'il fallait enfin faire quelques préparatifs de guerre. Alors il les commanda, étranges et insensés. Il fit amener des voitures au théâtre et au palais, les fit charger d'instruments de musique au lieu d'instruments de guerre, cita les tribus urbaines pour recevoir les serments militaires. Mais voyant qu'aucun de ceux en état de porter les armes ne répondait, il exigea des maîtres un certain nombre d'esclaves et alla lui-même dans les maisons choisir les plus forts et les plus robustes, prenant jusqu'aux économes et aux secrétaires. Enfin, il rassembla 400 courtisanes auxquelles il fit couper les cheveux. Il les arma de la hache et du bouclier des Amazones et les destina à remplacer près de lui la garde césarienne. Puis, sortant de la salle à manger, après son dîner, appuyé sur les épaules de Sporus et de Faon, il dit à ceux qui attendaient pour le voir et qui paraissaient inquiets qu'ils se rassurassent, attendu que dès qu'il aurait touché le sol de la province et se serait montré sans armes aux yeux des Gaulois, il n'aurait besoin que de verser quelques larmes, qu'aussitôt les séditieux se repentiraient, et que dès le lendemain, on le verrait joyeux parmi les joyeux, entonner une hymne de victoire qu'il allait composer sur le champ. 15 jours après, un nouveau courrier arriva des Gaules. Celui-ci au moins apportait des nouvelles favorables. C'était la rencontre des légions romaines et des Gaulois, la défaite des rebelles et la mort de Vindex. Néron jeta de grands cris de joie, courant comme un fou dans les appartements et dans les jardins de la Maison Dorée, ordonnant des fêtes et des réjouissances, annonçant qu'il chanterait le soir au théâtre et faisait inviter les principaux de la ville à un grand souper pour le lendemain. Effectivement, le soir, Néron se rendit au gymnase, mais une étrange fermentation régnait dans Rome. En passant devant l'une de ses statues, il vit qu'on l'avait couverte d'un sac. Or, c'était dans un sac que l'on enfermait les parricides, puis on les jetait dans le Tibre avec un singe, un chat et une vipère. Un peu plus loin, une colonne portait ces mots écrits sur sa base. Néron a tant chanté qu'il a réveillé les coqs. Un riche patricien, propriétaire qui se trouvait sur la route de l'empereur, se disputait ou feignait de se disputer si haut avec ses esclaves que Néron s'informa de ce qui se passait. On vint alors lui dire que les esclaves de cet homme, méritant une correction, ils réclamaient un vindex. Le spectacle commença par une Atellane où jouait l'acteur Hiatus. Le rôle dont il était chargé commençait par ces mots « Salut à mon père, salut à ma mère !» Au moment de les prononcer, il se tourna vers Néron et imita, en disant « Salut à mon père », l'action de boire et en disant « Salut à ma mère », l'action de nager. Cette sortie fut accueillie par d'unanimes applaudissements, car chacun y avait reconnu une allusion à la mort de Claude et à celle d'Agrippine. Quant à Néron, il se mit à rire et applaudit comme les autres, soit qu'il fût insensible à toute espèce de honte, soit de crainte que la vue de sa colère n'excitât davantage la raillerie ou n'indisposât le public contre lui-même. Lorsque son tour fut arrivé, il quitta sa loge et entra sur le théâtre. Pendant le temps qu'il s'habillait pour paraître, une étrange nouvelle se répandit dans la salle et circula parmi les spectateurs. Les lauriers de Livy étaient séchés et toutes les poules étaient mortes. Voici comment ces lauriers avaient été plantés et comment les poules étaient devenues sacrées. Dans le temps où Livy d'Eusile, qui par son mariage avec Octave reçut le nom d'Augusta, était promise à César, un jour qu'elle était assise dans sa villa de Veii, un aigle du haut des airs laissa tomber sur ses genoux une poule blanche qui non seulement était sans blessure, mais ne paraissait même pas effrayée. Livy, étonnée, regardait et caressait l'oiseau, lorsqu'elle s'aperçut que la poule tenait au bec une branche de laurier. Alors elle consulta les aruspices, qui ordonnèrent de planter le laurier pour en obtenir des rejetons et de nourrir la poule pour en avoir de la race. Livy obéit. Une maison de plaisance des Césars, située sur la voie Flaminia près du Tibre, à 9 000 de Rome, fut choisie pour cette expérience qui réussit au-delà de tout espoir. Il naquit une si grande quantité de poussins que la terre prit le nom d'Ad Gallinas, et il poussa de si nombreux rejetons que le laurier fut bientôt le centre d'une forêt. Or, la forêt était desséchée jusqu'à ses racines, et tous les poussins étaient morts jusqu'au dernier. Alors l'empereur parut sur le théâtre, mais il eut beau s'avancer humblement vers l'orchestre selon son habitude et adresser une respectueuse allocution aux spectateurs en leur disant qu'ils feraient tout ce qu'ils pourraient faire, mais que l'événement dépendait de la fortune, pas un applaudissement ne se fit entendre pour le soutenir. Il n'en commença pas moins, mais intimidé et tremblant. Tout son rôle fut écouté au milieu du silence et sans un seul encouragement. Puis, arrivé à ce vers, « Ma femme, ma mère et mon père demandent ma mort. » Pour la première fois, les applaudissements et les cris éclatèrent. Mais cette fois, il n'y avait pas à se tromper à leur expression. Néron en comprit le vrai sens et quitta rapidement le théâtre. Mais en descendant l'escalier, ses pieds s'embarrassèrent dans sa robe trop longue, de sorte qu'il tomba et se blessa au visage. On le ramassa évanoui. Rentré au Palatin et revenu à lui, il s'enferma dans son cabinet, plein de terreur et de colère. Alors il tira ses tablettes et y traça des projets étranges qui n'avaient besoin que d'une signature pour devenir des ordres mortels. Ses projets étaient d'abandonner les Gaules au pillage des armées, d'empoisonner tout le Sénat en l'invitant à un festin, de brûler la ville et de lâcher en même temps toutes les bêtes féroces afin que ce peuple ingrat, qui ne l'avait applaudi que pour lui présager sa mort, ne pût pas se défendre des ravages du feu. Puis, rassuré sur sa puissance, par la conviction du mal qu'il pouvait faire encore, il se jeta sur son lit, et comme les dieux voulaient lui envoyer de nouveaux présages, ils permirent qu'il s'endormît. Alors, lui, qui ne rêvait jamais, rêva qu'il était perdu pendant une tempête sur une mer furieuse, et qu'on lui arrachait des mains le gouvernail du navire qu'il dirigeait. Puis, par une de ces transitions incohérentes, il se trouva tout à coup près du théâtre de Pompée, et les 14 statues exécutées par Coponius et représentant les nations descendirent de leur base, et tandis que celles qui se trouvaient devant lui barraient le passage, les autres formaient un cercle et se rapprochaient graduellement jusqu'à ce qu'il se trouvât enfermé entre leurs bras de marbre. À grand-peine, il avait échappé à ces fantômes de pierre et courait pâle haletant et sans voix dans le champ de Mars, lorsqu'en passant devant le mausolée d'Auguste, les portes du tombeau s'ouvrirent d'elles-mêmes et une voix en sortit qu'il appela trois fois. Ce dernier songe brisa son sommeil et il se réveilla tremblant, les cheveux hérissés et le front ruisselant de sueur. Alors il appela, donna l'ordre qu'on lui amenât Sporus, et le jeune homme demeura dans sa chambre le reste de la nuit. Avec le jour, l'excès des terreurs nocturnes s'évanouit, mais il lui resta une crainte vague qui le faisait tressaillir à chaque instant. Alors il fit conduire devant lui le courrier qui avait apporté la dépêche qui annonçait la mort de Vindex. C'était un cavalier batave qui était venu de la Germanie avec Virginius et avait assisté à la bataille. Néron lui fit répéter plusieurs fois tous les détails du combat et surtout ceux de la mort de Vindex. Enfin, il ne fut tranquille que lorsque le soldat lui jura par Jupiter qu'il avait vu de ses yeux le cadavre percé de coups et prêt pour la tombe. Alors il lui fit compter une somme de 100 000 sesterces et lui fit don de son propre anneau d'or. L'heure du dîner arriva. Les convives impériaux se rassemblèrent au Palatin. Avant le repas, Néron, comme d'habitude, les fit passer dans la salle de bain, et en sortant du bain des esclaves, leur offrirent des tâches blanches et des couronnes de fleurs. Néron les attendait dans le triclinium, vêtu de blanc comme eux et la tête couronnée, et l'on se coucha sur les lits au son d'une musique délicieuse. Ce dîner était servi non seulement avec toute la recherche, mais encore avec tout le luxe des repas romains. Chaque convive avait un esclave couché à ses pieds pour prévenir ses moindres caprices, un parasite mangeait à une petite table isolée qui lui était entièrement abandonnée comme une victime, tandis qu'au fond, sur une espèce de théâtre, des danseuses gaditanes semblaient, par leur grâce et leur légèreté, ces divinités printanières qui accompagnent au mois de mai Flore et Éphyre visitant leur royaume. À mesure que ce dîner s'avança et que les convives s'échauffèrent, le spectacle changea de caractère et de voluptueux devint lascif. Enfin, des funambules succédèrent aux danseuses et alors commencèrent ces jeux inouïs que la régence renouvela, dit-on, et qui avaient été inventés pour réveiller les sens alanguis du vieux Tibère. En même temps, Néron prit une cithare et se mit à réciter des vers où Vindex était comblé de ridicule. Il accompagnait ses chants de gestes bouffons, et gestes et chants étaient frénétiquement applaudis des convives, lorsqu'un nouveau messager arriva, porteur de lettres d'Espagne. Ces lettres annonçaient à la fois et la révolte et la proclamation de Galba. Néron relut plusieurs fois ces lettres, pâlissant davantage à chaque fois, et alors, saisissant deux vases qu'il aimait beaucoup et qu'il appelait homériques parce que leur sujet représentait des poèmes tirés de l'Iliade, il les brisa comme s'ils eussent été de quelque matière commune. Puis aussitôt, se laissant tomber, il déchira ses vêtements, se frappa violemment la tête contre les lits du festin, disant qu'il souffrait des malheurs inouïs et inconnus, puisqu'il perdait l'empire de son vivant. À ses cris, sa nourrice Gloguet entra, le prit entre ses bras comme un enfant, et tâcha de le consoler. Mais comme un enfant, sa douleur s'augmenta des consolations qu'on lui donnait. Bientôt la colère lui succéda. Il se fit apporter un roseau et du papyrus pour écrire au chef des prétoriens. Puis lorsque l'ordre fut signé, il chercha sa bague pour le cacheter. Mais comme nous l'avons dit, il l'avait donnée le matin même au cavalier batave. Il demanda alors ce sceau à Sporus, qui lui présenta le sien. Il l'appuya sur la cire, sans le regarder, mais en le levant, il s'aperçut que cet anneau représentait la descente de Proserpine aux enfers. Ce dernier présage, dans un tel moment, lui parut le plus terrible de tous, et soit qu'il pensât que Sporus lui présentait cette bague avec intention, soit que dans la folie qui le possédait, il ne reconnut pas ses amis les plus chers, lorsque Sporus s'approcha de lui pour s'informer de la cause de ce nouvel accès, il le frappa du poing au milieu du visage, et le jeune homme ensanglanté et évanoui alla rouler au milieu des débris du repas. Aussitôt, l'empereur, sans prendre congé de ses convives, remonta dans sa chambre et ordonna qu'on lui fît venir Locuste. Chapitre 18. Cette fois, c'était pour lui-même que l'empereur en appelait à la science de sa vieille amie. Ils passèrent ensemble la nuit entière, et devant lui la magicienne composa un poison subtil qu'elle avait combiné 3 jours auparavant et dont elle avait fait l'essai la veille. Néron le renferma dans une boîte d'or et le cacha dans un meuble que lui avait donné Sporus et dont il n'y avait que lui et l'eunuque qui connussent le secret. Cependant, le bruit de la révolte de Galba s'était répandu avec une rapidité effroyable. Cette fois, ce n'était plus une menace lointaine, une entreprise désespérée comme celle de Vindex. C'était l'attaque puissante et directe d'un patricien dont la race, toujours populaire à Rome, était à la fois illustre et ancienne, et qui prenait sur ses statuts le titre de petit-fils de Quintus Catulus Capitolinus, c'est-à-dire du magistrat qui avait passé pour le premier de son temps par son courage et sa vertu. à ses bonnes dispositions pour Galba, se joignaient de nouveaux griefs contre Néron. Préoccupé de ses jeux et de ses courses et de ses chants, les ordres ordinaires qu'il devait donner en sa qualité de préfet de la nonne avaient été négligés, de sorte que la flotte, qui devait apporter le blé de Sicide et d'Alexandrie, était partie seulement à l'époque où elle aurait dû revenir. Il en résultait qu'en peu de jours, la cherté du grain était devenue excessive, puisque la famine lui avait succédé, et que Rome, mourante de faim comme un seul homme, et les yeux tournés vers le midi, courait tout entière au bord du Tibre à chaque vaisseau qui remontait du port d'Ostie. Or, le matin du jour où Néron avait passé la nuit avec Locuste, et le lendemain de celui où les nouvelles de la révolte de Galba étaient arrivées, le peuple mécontent et affamé était rassemblé au forum lorsqu'on signala un bâtiment. Tout le monde courut au port, Elius, croyant ce bâtiment d'avant-garde de la flotte nourricière, et chacun se précipita à bord avec des cris de joie. Le bâtiment rapportait du sable d'Alexandrie pour les lutteurs de la cour. Les murmures et les imprécations éclatèrent hautement. Parmi les mécontents, un homme se faisait remarquer. C'était un affranchi de Galba nommé Icellus. La veille au soir, il avait été arrêté, mais pendant la nuit, une centaine d'hommes armés s'étaient portés à la prison et l'avaient délivré. Il reparaissait donc au milieu du peuple, fort de sa persécution momentanée, et profitant de cet avantage, il appelait les assistants à une révolte ouverte. Mais ceux-ci balançaient encore, par ce reste d'obéissance à ce qui existe, dont on ne se rend pas compte, mais que les esprits vulgaires brisent si difficilement. Lorsqu'un jeune homme, le visage caché sous son pallium, passa près de lui et lui tendit un feuillet déchiré d'une tablette. Icellus prit la plaque d'ivoire enduite de cire qu'on lui présentait et vit avec joie que le hasard venait à son secours en lui livrant une preuve contre Néron. Cette tablette contenait le projet qu'avait arrêté l'empereur pendant la nuit qu'il avait passée avec Sporus de brûler une seconde fois cette Rome qui se lassait d'applaudir à ses chants et de lâcher les bêtes féroces pendant l'incendie afin que les Romains ne puissent pas éteindre le feu. Icellus lut à haute voix les lignes écrites sur la tablette. Cependant, on hésitait à le croire, tant une pareille vengeance paraissait insensée. Quelques personnes même criaient que, sans doute, l'ordre que venait de lire Icellus était un ordre supposé. Lorsque Nymphidius Sabinus prit la tablette des mains de l'affranchi et déclara qu'il reconnaissait parfaitement non seulement l'écriture de l'empereur, mais encore sa manière de raturer, d'effacer et d'intercaler. À ceci, il n'y avait rien à répondre. Nymphidius Sabinus, comme préfet du prétoire, ayant eu souvent l'occasion de recevoir les lettres autographes de Néron. En ce moment, plusieurs sénateurs passèrent en désordre et sans manteau. Ils se rendaient au Capitole où ils étaient convoqués. Le chef du Sénat, ayant vu le matin même une tablette pareille à celle que l'inconnu avait remise à Icellus, et sur laquelle était écrit le projet détaillé d'inviter tous les sénateurs à un grand repas et de les empoisonner tous ensemble et d'un seul coup, le peuple se mit à leur suite et revint inonder le forum, nombreux et pressés comme des vagues, et semblables à un flux qui recouvre le port. Puis, en attendant ce que le Sénat allait décider, il s'attaqua au statut de Néron, n'osant encore s'en prendre à lui-même. Du haut de la terrasse du Palatin, l'empereur vit les outrages auxquels ses effigies étaient soumises. Alors il s'habilla de noir pour descendre vers le peuple et se présenter à lui en suppliant. Mais au moment où il allait sortir, les cris de la foule avaient pris de telles expressions de menace et de rage qu'il rentra précipitamment, se fit ouvrir une porte de derrière et se sauva dans les jardins de Servilius. Une fois à l'abri dans cette retraite que personne que ses confidents les plus intimes ne savait avoir été choisi par lui, il envoya Phaon au chef des prétoriens. Mais l'agent de Galba avait précédé au camp l'agent de César. Nymphidius Sabinus venait de promettre au nom du nouvel empereur 7 500 drachmes par tête et à chaque soldat des armées qui serait dans les provinces 1 250 drachmes. Le chef des prétoriens répondit donc à Phaon que tout ce qu'il pouvait faire, c'était de donner pour la même somme la préférence à Néron. Phaon rapporta cette réponse à l'empereur, mais la somme demandée s'élevait à 285 162 300 francs de notre monnaie, et le trésor était épuisé par des prodigalités insensées, de sorte que l'empereur ne possédait pas la 20e partie de cette somme. Cependant, Néron ne désespérait point. La nuit approchait, et avec l'aide de ses anciens amis, dont, grâce aux ténèbres, il pouvait aller implorer l'assistance sans être vu, il parviendrait peut-être à rassembler cette somme. La nuit s'abaissa sur la ville pleine de tumulte et de lueurs. Partout où il y avait un forum, une place, un carrefour, il y avait des groupes éclairés par des torches. Au milieu de toute cette foule animée de tant de sentiments divers, les nouvelles les plus étranges et les plus contradictoires circulaient, comme si un aigle les secouait de ses ailes, et toutes obtenaient créance, si insensées et si incohérentes qu'elles fussent. Alors il s'élevait dans les airs des clartés et des rumeurs, qu'on eût prises de loin pour des éruptions de volcans et des rugissements de bêtes féroces. Au milieu de tout ce tumulte, les prétoriens quittèrent leurs casernes et allèrent camper hors de Rome. Partout où ils passèrent, le silence se rétablit, car on ne savait encore pour qui ils étaient. Mais à peine la foule les avait-elle perdus de vue, qu'elle se remettait à secouer ses torches et à hurler, désordonnée et menaçante. Cependant, malgré l'agitation de la ville, Néron se hasarda à descendre, déguisé sous les habits d'un homme du peuple, des jardins de Servilius où, comme nous l'avons dit, il s'était retiré pendant toute la journée. Cette démarche hasardée lui était inspirée par l'espoir de trouver une aide, sinon dans les bras, du moins dans la bourse, de ses anciens compagnons de débauche. Mais il eut beau se traîner de maison en maison, s'agenouiller en suppliant à toutes les portes et implorer comme un mendiant cette aumône qui seule pouvait racheter sa vie, mais il eut beau appeler et gémir, les cœurs restèrent insensibles et les portes fermées. Alors, comme cette multitude lassée des délais du Sénat commençait à se faire entendre, Néron comprit qu'il n'y avait pas un instant à perdre. Au lieu de retourner au jardin de Servilius, il se dirigea vers le Palatin pour y prendre de l'or et quelques bijoux précieux. Arrivé à la fontaine de Jupiter, il se glissa derrière le temple de Vesta, parvint jusqu'à l'ombre que projetaient les murs du palais de Tibère et de Caligula, gagna la porte qui s'était ouverte pour son arrivée de Corinthe, traversa ces jardins magnifiques qu'il allait être forcé d'abandonner, pour les grèves désertes de la proscription, puis, entrant dans la maison dorée, il gagna sa chambre par des corridors secrets et obscurs. En y entrant, il jeta un cri de surprise. Pendant son absence, les gardes du Palatin avaient pris la fuite, emportant avec eux tout ce qui s'était trouvé à leur portée, couvertures attaliques, vases d'argent, meubles précieux. Néron courut au petit coffre où il avait enfermé le poison de locuste et ouvrit le tiroir. Mais la boîte d'or avait disparu, et avec elle la dernière ressource contre la honte d'une mort publique et infâme. Alors, se sentant faible contre le danger, délaissé ou trahi par tout le monde, celui qui la veille encore était le maître de la terre, se jeta la face contre le plancher et se roula, appelant à son aide avec des cris insensés. Trois personnes accoururent, c'était Sporus, Épaphrodite, son secrétaire, et Phaon, son affranchi. À leur vue, Néron se releva sur un genou et les regarda avec anxiété. Puis, voyant à leurs visages tristes et abattus qu'il n'y avait plus d'espoir, il ordonna à Épaphrodite d'aller chercher le gladiateur Spiculus ou tout autre qui voulut le tuer. Puis il commanda à Sporus et à Phaon, qui restaient avec lui, d'entonner les lamentations que les femmes louées pour pleurer chantaient en accompagnant les funérailles. Il n'avait pas fini qu'Épaphrodite rentra. Ni Spiculus ni personne n'avait voulu venir. Alors Néron, qui avait rassemblé toutes ses forces, voyant que ce dernier moyen de mourir d'une mort prompte lui échappait, laissa tomber les bras en criant « Hélas, hélas, je n'ai donc ni ami ni ennemi !» Alors il voulut sortir du Palatin, courir vers le Tibre et s'y précipiter. Mais Phaon l'arrêta en lui offrant sa maison de campagne, située à 4 000 à peu près de Rome, entre les voies Salaria et Nomentane. Néron, se rattachant à cette dernière espérance, accepte. 5 chevaux sont préparés, Néron monte sur l'un d'eux, se voile le visage, et suivi de Sporus, qui ne le quitte pas plus que son ombre, tandis que Phaon reste au palais pour lui faire parvenir des nouvelles, il traverse la ville tout entière, sort par la porte de Nomentane et suit la voie sur laquelle nous l'avons retrouvé au moment où le salut du soldat qu'il avait reconnu avait mis le comble à sa terreur. Cependant, la petite troupe était arrivée à la hauteur de la villa de Phaon, située où est aujourd'hui la Serpentara. Cette campagne, cachée derrière le mont sacré, pouvait offrir à Néron une retraite momentanée, assez isolée, pour qu'il eût au moins le temps de se décider à mourir si toute chance de salut lui échappait. Épaphrodite, qui connaissait le chemin, prit alors la tête de la cavalcade et, se jetant à gauche, s'engagea dans la traverse. Néron le suivit, puis les deux affranchis et Sporus formèrent l'arrière-garde. Arrivés à moitié chemin, ils entendirent quelques bruits sur la route, quoiqu'ils pussent voir quelles étaient les personnes qui le causaient. Cette obscurité les servit eux-mêmes. Néron et Épaphrodite se jetèrent dans la campagne, tandis que Sporus et les deux affranchis continuèrent de côtoyer le mont sacré. Ce bruit était causé par une patrouille de nuit envoyée à la recherche de l'empereur et commandée par un centurion. Elle arrêta les trois voyageurs, mais ne reconnaissant pas Néron parmi eux, le centurion les laissa continuer leur route après avoir échangé quelques mots avec Sporus. Cependant, l'empereur et Épaphrodite avaient été forcés de mettre pied à terre tant la plaine était semée de roches et de terrains éboulés par la dernière commotion qui s'était fait sentir au moment où la petite troupe avait quitté Rome. Ils s'avancèrent alors au travers des joncs et des épines qui mettaient en sang les pieds nus de Néron et déchiraient son manteau. Enfin, ils aperçurent une masse noire dans l'ombre. Un chien de garde aboya, les suivant le long du mur intérieur, tandis qu'eux côtoyaient la paroi extérieure. Enfin, ils arrivèrent à l'entrée d'une carrière attenante à la villa, et dont Phaon avait fait tirer du sable. L'ouverture en était basse et étroite. Néron, pressé par la peur, se mit à plat ventre et se glissa dans l'intérieur. Alors, de l'entrée, Épaphrodite lui dit qu'il allait faire le tour des murs, pénétrer dans la villa et s'informer si l'empereur pouvait l'y suivre sans danger. Mais à peine Épaphrodite fut-il éloigné, que Néron, se trouvant seul dans cette carrière, fut saisi d'une terreur extrême. Il lui semblait être dans un sépulcre dont la porte aurait été fermée sur lui tout vivant. Il se hâta donc d'en sortir afin de revoir le ciel et de respirer l'air. Arrivé au bord, il aperçut à quelques pas de lui une mare. Quoique l'eau en fût stagnante, il avait une soif telle qu'il ne put résister à l'envie d'en boire. Alors, mettant son manteau sous ses pieds pour se garantir quelque peu des cailloux et des ronces, il se traîna jusqu'à cette eau, empuisa quelques gouttes dans le creux de sa main, puis, regardant le ciel et d'un ton de reproche, « Voilà donc, dit-il, le dernier rafraîchissement de Néron. » Il était, depuis quelque temps, assis morne et pensif au bord de cette mare, occupé d'arracher les épines et les ronces qui étaient restées dans son manteau, lorsqu'il s'entendit appeler. Cette voix, rompant le silence de la nuit, bien qu'elle eût une expression bienveillante, le fit tressaillir. Il se retourna et aperçut à l'entrée de la carrière Épaphrodite, une torche à la main. Son secrétaire lui avait tenu parole, et après être entré par la porte principale de la villa et avoir indiqué aux affranchis la place où les attendait l'empereur, ils avaient d'un commun effort percé un vieux mur et préparé une ouverture qui lui permettait de passer de la carrière dans la villa. Néron s'empressa de suivre son guide avec tant de hâte qu'il oublia son manteau au bord de la mare. Alors il rentra dans la caverne, et de la caverne dans une petite chambre d'esclave, n'ayant pour tout meuble qu'un matelas et une vieille couverture, et éclairée par une mauvaise lampe de terre qui faisait dans ce bouge sépulcral et infect plus de fumée que de lumière. Néron s'assit sur le matelas, le dos appuyé au mur. Il avait faim et soif. Il demanda à boire et à manger. On lui apporta un peu de pain bis et un verre d'eau. Mais après avoir goûté le pain, il le jeta loin de lui. Puis il rendit l'eau en demandant qu'on la lui fît tiédir. Resté seul, il laissa tomber sa tête sur ses genoux et demeura quelques instants immobile et muet comme une statue de la douleur. Bientôt la porte s'ouvrit. Croyant que c'était l'eau qu'on lui rapportait, Néron releva la tête et vit devant lui Sporus tenant une lettre à la main. Il y avait sur la figure pâle de l'eunuque, habitué à exprimer l'abattement ou la tristesse, une expression si étrange de joie cruelle que Néron le regarda un instant, ne reconnaissant plus l'esclave docile de tous ses caprices dans le jeune homme qui s'approchait de lui. Arrivé à deux pas du lit, il le tendit les bras et lui présenta le parchemin. Néron, quoiqu'il ne comprît rien au sourire de Sporus, se douta qu'il contenait quelque fatale nouvelle. « De qui est cette lettre ? » dit-il, sans faire aucun mouvement pour la prendre. « De Pharaon, » répondit le jeune homme. « Et qu'annonce-t-elle ? » continua Néron en pâlissant. Que le Sénat t'a déclaré ennemi de l'État et qu'on te cherche pour te conduire au supplice. Au supplice ! S'écria Néron en se soutenant sur un genou. Au supplice ! Moi ! Moi ! Claudius César ! Tu n'es plus Claudius César, répondit froidement l'eunuque. « Tu es Domitius et Nobarbus, voilà tout, déclaré traître à la patrie et condamné à mort. » « Et quel est le supplice des traîtres à la patrie ? » dit Néron. « On les dépouille de leurs vêtements, on leur serre le cou entre les branches d'une fourche, on les promène au forum, au marché, au champ de Mars, puis on les frappe de verges jusqu'à ce qu'ils meurent. « Oh, s'écria Néron en se dressant tout debout. « Je puis fuir encore, j'ai encore le temps de fuir, de gagner la forêt de Laris et les marais de Minturne. Quelque vaisseau me recueillera, et je me cacherai en Sicile ou en Égypte. » « Fuir ! » dit Sporus, toujours pâle et froid, comme un simulacre de marbre. « Fuir, mais par où ?»« Par ici !» s'écria Néron, ouvrant la porte de la chambre et s'élançant vers la carrière. « Puisque je suis entré, je puis sortir. »« Oui, mais depuis que tu es entré, » dit Sporus, « l'ouverture est rebouchée. Et, si bon athlète que tu sois, je doute que tu puisses repousser seul le rocher qui la ferme. » « Par Jupiter, c'est vrai !» s'écria Néron, épuisant vainement ses forces pour essayer de soulever la pierre. « Mais qui a fermé cette caverne? Qui a fait rouler ce rocher ?»« Moi, elle les a franchis, » répondit Sporus. « Et pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi m'avez-vous enfermé comme Cacus dans son antre ?» Pour que tu y meures comme lui, dit Sporus, avec une expression de haine à laquelle on n'aurait jamais cru sa voix douce capable d'atteindre. Mourir, mourir, dit Néron, en frappant la tête comme une veine fauve enfermée et qui cherche une issue. Mourir, mais tout le monde veut donc que je meure, tout le monde m'abandonne donc. Oui, répondit Sporus. Tout le monde veut que tu meures, mais tout le monde ne t'abandonne pas, puisque me voilà, puisque je viens mourir avec toi. Oui, oui, murmura Néron, se laissant de nouveau tomber sur le matelas. Oui, c'est de la fidélité. Oh, tu te trompes, César, dit Sporus, croisant les bras et regardant Néron qui mordait les coussins de son lit. « Tu te trompes. Ce n'est pas de la fidélité. C'est mieux que cela. C'est de la vengeance. »« De la vengeance ?» s'écria Néron en se retournant vivement. « De la vengeance ? Et que t'ai-je donc fait, Sporus ?»« « Jupiter, il le demande, » dit l'eunuque, levant les deux bras au ciel, « ce que tu m'as fait ?»« Oui, oui, » murmura Néron effrayé et se reculant contre le mur. « Ce que tu m'as fait ?» répondit Sporus, avançant d'un pas vers lui et laissant retomber ses mains comme si les forces lui eussent manqué. « D'un enfant qui était né pour devenir un homme, pour avoir sa part des sentiments de la terre et des joies du ciel. Tu as fait un pauvre être qui n'appartenait plus à rien, qui n'avait plus de droit à rien, qui n'avait plus d'espoir en rien. Tous les plaisirs et tous les bonheurs, je les ai vus passer devant moi comme Tantale voit les fruits et l'eau sans pouvoir les atteindre, enchaînés, que j'étais à mon impuissance et à ma nullité. Et ce n'est pas tout, car si j'avais pu souffrir et pleurer sous des habits de deuil en silence et dans la solitude, je te pardonnerais peut-être. Mais il m'a fallu revêtir la pourpre comme les puissants, sourire comme les heureux, vivre au milieu du monde comme ceux qui existent, moi, pauvre fantôme, pauvre spectre, pauvre ombre. Mais que voulais-tu de plus, dit Néron tremblant. J'ai partagé avec toi mon âme et plaisir et ma puissance. Tu as été de toutes mes fêtes. Tu as eu comme moi des courtisans et des flatteurs, et quand je n'ai plus su que te donner, je t'ai donné mon nom. Et voilà justement ce qui fait que je te hais, César. Si tu m'avais fait empoisonner comme Britannicus, si tu m'avais fait assassiner comme Agrippine, si tu m'avais fait ouvrir les veines comme à Sénèque, j'aurais pu te pardonner au moment de ma mort. Mais tu ne m'as traité ni comme un homme, ni comme une femme. Tu m'as traité comme un jouet frivole dont tu pouvais faire tout ce que bon te semblait, comme une statue de marbre aveugle, muette et sans cœur. Mais ces faveurs dont tu parles, c'étaient des humiliations dorées, voilà tout. Et plus tu me couvrais de honte, et plus tu m'élevais au-dessus des têtes, chacun pouvait mesurer mon infamie. Et ce n'est pas tout. Avant-hier, quand je t'ai donné cet anneau, quand tu pouvais me répondre par un coup de poignard, ce qui aurait fait croire au moins à tous ces hommes et à toute cette femme qui était là que je valais la peine d'être tué, tu m'as frappé du poing, comme un parasite, comme un esclave, comme un chien. Oui, oui, Diderot, oui, j'ai eu tort. Pardonne-moi, mon bon Sporus. Et cependant, continua Sporus, comme s'il n'avait pas entendu l'interruption de Néron, cet être sans nom, sans sexe, sans ami et sans cœur, cet être, quel qu'il fût, s'il ne pouvait faire le bien, pouvait au moins faire le mal. Il pouvait, la nuit, entrer dans ta chambre, te voler tes tablettes, qui condamnaient à mort le Sénat et le peuple, et les éparpiller, comme lui fait un vent d'orage, sur le forum ou au Capitole, de manière à ce que tu n'eusses plus de grâce à attendre ni du peuple ni du Sénat. Il pouvait enlever la boîte où était renfermé le poison de locuste, afin de te livrer seul, sans défense et sans armes, à ceux qui te cherchent pour te faire subir une mort infâme. Tu te trompes, s'écria Néron en tirant un poignard de dessous le coussin de son lit. Tu te trompes, il me reste ce fer. Oui, dit Sporus, mais tu n'oseras pas t'en servir, ni contre les autres, ni contre toi. Et cet exemple sera donné au monde grâce à un eunuque, d'un empereur expirant sous les verges et le fouet, après avoir été promené nu et la fourche au cou par le forum et les marchés. Mais je suis bien caché ici, ils ne me trouveront pas, dit Néron. Oui, oui, il eût été possible que tu leur échappasses encore, si je l'eusse rencontré un centurion, et si je ne lui eusse dit où tu étais. À cette heure, il frappe à la porte de la villa. César, il va venir. Il vient. Je ne l'attendrai pas, dit Néron, mettant la pointe du poignard sur son cœur. Je me frapperai, je me tuerai. Tu n'oseras pas, dit Sporus. Et cependant, murmura en grec Néron, comme cherchant avec la pointe de la lame une place où se tuer, mais hésitant toujours à enfoncer le fer. Cependant, cela ne sied pas à Néron de ne pas savoir mourir. Oui, oui, j'ai vécu honteusement et je meurs avec honte. Ô univers, univers, quel grand artiste tu vas perdre en me perdant. Tout à coup, il s'arrêta, le cou tendu, les cheveux hérissés, le front couvert de sueur, écoutant un bruit nouveau qui venait de se faire entendre, et balbutia ce vers d'Homère. C'est le bruit des chevaux à la course rapide. En ce moment, Épaphrodite se précipita dans la chambre. Néron ne s'était pas trompé. Ce bruit était bien celui des cavaliers qui le poursuivaient et qui, guidés par les renseignements de Sporus, étaient venus droit à la villa. Il n'y avait donc pas un instant à perdre si l'empereur ne voulait pas tomber entre les mains de ses bourreaux. Alors Néron parut prendre une résolution décisive. Il tira Épaphrodite à part et lui fit jurer par le Styx de ne laisser sa tête au pouvoir de personne et de brûler au plus tôt son corps tout entier. Puis, tirant son poignard de sa ceinture où il l'avait remis, il en posa la pointe contre son cou. En ce moment, le bruit se fit entendre, plus rapproché, des voix retentirent avec un accent de menace. Épaphrodite vit que l'heure suprême était venue. Il saisit la main de Néron et, appuyant le poignard contre sa gorge, il y enfonça la lame tout entière. Puis, suivi de Sporus, il se précipita dans la carrière, refermant la porte de la chambre derrière eux. Néron poussa un cri terrible en arrachant et en jetant loin de lui l'arme mortelle. Chancela un instant, les yeux fixes et la poitrine haletante, tomba sur un genou, puis sur l'autre, essaya de se soutenir encore sur un bras, tandis que le sang jaillissait de sa gorge à travers les doigts de son autre main, avec laquelle il cherchait à fermer sa blessure. Enfin, il regarda une dernière fois autour de lui avec une expression de désespoir mortel, et se voyant seul, il se laissa aller étendu sur la terre en poussant un gémissement. En ce moment, la porte s'ouvrit et le centurion parut. En voyant l'empereur sans mouvement, il s'élança vers lui et voulut étancher le sang avec son manteau. Mais Néron, rappelant un reste de force, le repoussa, puis « Est-ce là la foi que vous m'aviez jurée ?» lui dit-il d'un ton de reproche. Et il rendit le dernier soupir. Seulement, chose étrange, ses yeux restèrent fixes et ouverts. Alors tout fut dit. Les soldats qui avaient accompagné le centurion entrèrent pour s'assurer que l'empereur avait cessé de vivre, et n'ayant plus de doute à cet égard, ils retournèrent à Rome pour y annoncer sa mort, de sorte que le cadavre de celui qui la veille encore était le maître du monde, demeura seul étendu dans une boue sanglante, sans un esclave pour lui rendre le dernier devoir. Un jour entier s'écoula ainsi. Le soir, une femme entra, pâle, lente et grave. Elle avait obtenu d'Icellus cet affranchi de Galba que nous avons vu exciter le peuple et qui était devenu tout puissant à Rome, où l'on attendait son maître, la permission de rendre le dernier devoir à Néron. Elle le déshabilla, lava le sang dont son corps était souillé, l'enveloppa d'un manteau blanc brodé d'or qu'il portait la dernière fois qu'elle l'avait vu et qu'il lui avait donné, puis le ramena à Rome dans un chariot couvert qu'elle avait fait conduire avec elle. Là, elle lui fit des funérailles modestes et qui ne dépassèrent pas celles d'un simple citoyen, puis elle déposa le cadavre dans le monument de Domitien que du champ de Mars on apercevait sur la colline des Jardins et où, d'avance, Néron s'était fait préparer une tombe de porphyre surmontée d'un autel de marbre de Luna et entourée d'une balustrade de marbre de Thasos. Enfin, ses derniers devoirs accomplis, elle resta un jour entier immobile et muette comme la statue de la douleur, agenouillée et priant à la tête de cette tombe. Puis, lorsque le soir fut venu, elle descendit lentement la colline des Jardins, reprit sans regarder derrière elle le chemin de la vallée Égérie et rentra pour la dernière fois dans les catacombes. Quant à Épaphrodite et à Sporus, on les retrouva morts et couchés l'un près de l'autre dans la carrière. Entre eux était la boîte d'or, ils avaient partagé en frères et le poison préparé pour Néron avait suffi à tous deux. Chapitre 19. C'est ainsi que mourut Néron dans la 32e année de son âge et le jour même où il avait fait autrefois périr Octavie. Cependant, ce trépas étrange et ignoré, ces funérailles accomplies par une femme, sans que le corps, ainsi que c'était la coutume, eût été exposé, laissèrent de grands doutes au peuple romain, le plus superstitieux de tous les peuples. Beaucoup dirent que l'empereur avait gagné le port d'Ostie, d'où un vaisseau l'avait transporté en Syrie, de sorte que l'on s'attendait à le voir reparaître de jour en jour. Et tandis qu'une main inconnue, pendant 15 ans encore, orna religieusement sa tombe des fleurs du printemps et de l'été, il y en eut qui, tantôt, apportaient à la tribune aux harangues des images de Néron représentées en robe prétexte, tantôt, qui venaient y lire des proclamations comme s'il vivait, comme s'il devait revenir puissant et armé pour le malheur de ses ennemis. Enfin, 20 ans après sa mort, et dans la jeunesse de Suétone qui raconte ce fait, un homme d'une condition obscure, qui se vantait d'être Néron, parut chez les Parthes, et fut longtemps soutenu par ce peuple qui avait particulièrement honoré la mémoire du dernier César. Ce n'est pas tout. Ces traditions passèrent des païens aux chrétiens, et appuyées sur quelques passages de saint Paul lui-même, saint Jérôme présenta Néron comme l'Antéchrist, ou du moins comme son précurseur. Sulpice Sévère fait dire à saint Martin dans ses dialogues qu'avant la fin du monde, Néron et l'Antéchrist doivent paraître, le premier dans l'Occident où il rétablira le culte des idoles, le second dans l'Orient où il révélera le temple et la ville de Jérusalem pour y fixer le siège de son empire, jusqu'à ce qu'enfin l'Antéchrist se fasse reconnaître pour le Messie, déclare la guerre à Néron et le fasse périr. Enfin, saint Augustin assure, dans sa Cité de Dieu, que de son temps, c'est-à-dire au commencement du 5e siècle, beaucoup encore ne voulaient pas croire que Néron fût mort, mais soutenaient au contraire qu'il était plein de vie et de colère, caché dans un lieu inaccessible, et conservant toute sa vigueur et sa cruauté pour reparaître de nouveau quelques jours et remonter sur le trône de l'Empire. Aujourd'hui encore, parmi toute cette longue suite d'empereurs qui tour à tour sont venus ajouter un monument au monument de Rome, le plus populaire est Néron. Il y a encore la maison de Néron, les bains de Néron, la tour de Néron. À Bowly, un vigneron m'a montré sans hésiter la place où était située la villa de Néron. Au milieu du golfe de Baïa, mes matelots se sont arrêtés juste à l'endroit où s'était ouverte la trirème préparée par Néron, et de retour à Rome, un paysan m'a conduit en suivant la même voie lamentane qu'avait suivi Néron dans sa fuite, droit à la Serpentara. Et dans quelques ruines éparses, au milieu de cette magnifique plaine de Rome, toute jonchée de ruines, m'a forcé de reconnaître la place de la villa où s'était poignardé l'empereur. Enfin, il n'y a pas jusqu'à Voiturin, que j'avais pris à Florence, qui ne m'ait dit dans son ignorante dévotion au souvenir du dernier César, en me montrant une ruine placée à droite de la Stora à Rome. Voici le tombeau de Néron. Explique qui pourra maintenant l'oubli dans lequel sont tombés au même lieu les noms de Titus et de Marc Aurèle.